Bienvenue dans la baie du Mont-Saint-Michel pour ce nouvel épisode sous les ailes de l'Archange. En chemin vers Pâques pour ce quatrième dimanche de Carême, Sœur Nathanaël des Fraternités Monastiques de Jérusalem au Mont-Saint-Michel vous propose un commentaire des textes liturgiques de ce dimanche. Croire au Christ, l'unique sauveur du pèlerinage de nos vies.
Le discours de Jean s'adresse au premier chef, par-delà Nicodème, à la communauté chrétienne des premiers siècles de l'Église, qui a médité et relu le mystère de la croix à la lumière de l'événement pascal de la résurrection du Christ, illuminé par l'esprit de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est nous qui l'interpelle, nous qui recevons de l'Église cette parole d'Évangile en ce quatrième dimanche du Carême. Jean évoque d'abord un épisode de la marche des Hébreux, guidée au désert par Moïse au temps de l'Exode, après la sortie d'Égypte. Ceux qui, mordus par des serpents venimeux, regardaient un serpent d'airain fiché sur un bâton, étaient sauvés, alors que ceux qui ne le faisaient pas mourraient tous. Le serpent de bronze était donc une sorte de talisman magique, comme un symbole de la mort vaincue. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De même, Jean identifie Jésus élevé sur la croix avec le serpent de bronze. Il faut. Cette élévation est une nécessité divine dont la cause, dira Jean, est l'amour infini de Dieu pour sa créature. En effet, il ne s'agit plus pour l'homme de se maintenir en vie seulement pour un temps, mais bien de recevoir de Dieu une vie pour toujours, puisque qualifiée d'éternelle. Le verbe grec utilisé par l'auteur et traduit par « élever » signifie à la fois « élever » en croix et « exalter », donc « glorifier ». Là se dévoile pour Jean quelque chose du mystère de la croix. C'est le lieu d'un renversement de perspective proprement abyssal. La croix, symbole de violence et de mort, est transfigurée par l'amour divin et devient signe de paix et de vie pour celui qui contemple avec foi Jésus crucifié. Chez Jean, en effet, le lieu de l'abaissement de cette mort ignominieuse est le lieu par excellence de la plus haute exaltation du Fils unique de Dieu dans la gloire, cette gloire qu'il n'a jamais cessé de partager avec le Père et le Saint-Esprit, même au plus sombre de sa passion. Là donc, et seulement là, se réalise en Christ le salut du monde. Là, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, relie pour toujours le ciel de Dieu et la terre des hommes. Comprenons bien, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le ciel, c'est la croix de Jésus. À une seule condition toutefois, celle de croire en lui. Le verbe croire est décliné 5 fois en 8 lignes de notre texte. Tout homme qui croit, quiconque croit, celui qui ne croit pas, il n'a pas cru. À chacun donc de se situer librement face à ce choix crucial, on peut le dire sans jeu de mots. Et nous, frères et sœurs, croyons-nous cela? Jean évoque ensuite un jugement. Son langage n'est pas facile et il vaut la peine de développer un peu. Dans sa première épître à Timothée, l'apôtre Paul écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ici, Jean nous dit que Dieu veut sauver le monde et non le condamner. Celui qui refuse de croire en ce dessein d'amour fait obstacle à ce projet de Dieu. Il lie, si je puis dire, les mains de Dieu. Puisqu'il choisit délibérément de ne pas entrer dans ce plan de salut, il se condamne de facto à rester séparé de Dieu. En choisissant de ne pas adhérer à ce que Dieu lui offre, il est, dit Jean, déjà jugé. Pire, il s'est condamné lui-même, car Dieu, qui respecte infiniment notre liberté, ne peut le sauver sans lui, sans un libre consentement de sa part. Oui, il est bien là le bon combat de la foi, et il dure toute une vie au fil de nos choix intimes. C'est bien là aussi un des aspects du drame de tout un monde qui se refuse à croire en Jésus-Christ, notre Seigneur, le Sauveur du monde. Frères et sœurs des fraternités de Jérusalem qui vivons et prions au Mont-Saint-Michel, nous sommes souvent témoins d'une telle réalité. Tant de personnes, en effet, visitent le mont en touriste, au risque de passer à côté du vrai message de vie de celui qui habite véritablement le mont, le Seigneur, et de son lieutenant, Saint-Michel-Archange. Tant de gens ne savent pas ou ne peuvent croire qu'ils sont aimés de Dieu, que Dieu les attend et désire leur bonheur. C'est pourquoi je pense vraiment que notre simple présence de priant en ce lieu est primordiale et contribue à rappeler au tout venant, avec Saint-Michel, qui est comme Dieu. Un passage du livre de vie de Jérusalem, le tracé spirituel de nos fraternités l'exprime très justement. Pense alors que tu sers peut-être plus encore ce monde en le quittant d'une certaine manière, car tu lui rappelles ainsi par ta vie son sens ultime, son exigence dernière, et tu lui offres l'appui de ta prière. Il lui est utile que tu dises être inutile. Le monde a besoin de moines qui le quittent pour lui être ministre d'inquiétude, signe d'interrogation. Oui, Dieu lui-même a mis au cœur de tout homme la soif de vivre et un profond désir d'éternité. Souvent enfoui, il ne demande parfois qu'à être réveillé, quand Dieu n'attend que de pouvoir répondre à ce désir. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est le mystère de l'incarnation. Pour que, par lui, continue Jean, le monde soit sauvé. C'est le mystère de la rédemption. Pour finir, Jean évoque le combat entre la lumière et les ténèbres, un thème récurrent qui parcourt tout son évangile. Dans son langage théologique affleure ici, comme ailleurs, une forme de dualisme, sans doute présent dans la mentalité de la communauté johannique du 1er siècle. Pour Jean et ses disciples, les vrais croyants sont ceux qui choisissent la lumière, et ceux du dehors sont considérés comme dans les ténèbres. Compris dans cette perspective, choisir de croire, c'est s'exposer délibérément à la lumière salvatrice du Christ, lumière du monde, pour laisser libre cours à son action libératrice en nos vies. Laisser nos failles, nos blessures et notre péché être dévoilés en vue de la guérison qu'apporte la vie du Christ ressuscité au long des jours jusqu'à la guérison définitive lors de la résurrection à la fin des temps. Car au cours du pèlerinage de notre vie, pour nous chrétiens, le salut est toujours offert dans les sacrements de l'Église qui nourrissent déjà en nous la vie éternelle promise en plénitude et que déjà, soutenus par l'Esprit Saint reçu au baptême, nous attendons dans une foi vivante, une espérance qui ne faiblit pas et une charité qui essaie de rester inventive au service de Dieu et des autres. N'est-ce pas tout cela, venir à la lumière ? Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Que Saint Michel, archange de lumière, reste notre défenseur dans ce bon combat pour Dieu et contre le mal. En ce carême, marchons ensemble à la lumière du Seigneur pour suivre le Christ jusqu'à la grande lumière de Pâques et jusqu'au jour sans couchant de l'éternité bienheureuse. Amen. Deo gratias.